les livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Clotilde Seil en votre compagnie, en direct du studio. Ben, en direct, non, pas vraiment, c'est pas vrai, faut pas que je mente. L'émission est pré-enregistrée, mais on fait ce qu'on appelle un faux direct. Ça veut dire qu'on n'arrête pas, c'est comme si j'y étais. Je pourrais ne pas vous le dire, mais mon honnêteté légendaire fait que voilà. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans le chic studio de Canal M qui produit cette émission, ce balado, des livres plein les oreilles. Je vous en offre un épisode nouveau à chaque semaine que vous pouvez découvrir sur à peu près toutes les plateformes qui existent dans le genre. Alors YouTube, Spotify, Apple Podcast et compagnie et compagnie. Alors cette semaine, maintenant que je vous ai bien salué, vous passionnés de livres audio ou ceux qui veulent les découvrir, ces livres audio, je rappelle que c'est le seul balado qui existe dans toute la francophonie, qui peut vous donner plein d'idées à vous glisser entre les oreilles. Eh bien, cette semaine, j'ai pour vous deux nouveautés de chez Audio, Radio-Canada, Les Scènes Noires, entre autres, une littérature contemporaine que j'ai beaucoup aimée, et puis la version sonore du petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon que j'attendais avec impatience. On poursuit aussi les feuillages des livres audio pour le prix Audiolib 2026. J'ai trois titres avec des extraits à vous faire entendre. En seconde partie, Faline Bobier va faire quelques recommandations à notre auditoire concerné directement par le livre audio gratuit et spécialement destiné à tous ceux à qui l'imprimé n'est plus une option. Et puis, nous allons finir avec des nouveautés policières ou encore rigolotes ou carrément dépaysantes comme Finistère de la bien nommée Anne Berest. Et Alexis trouve sa voix, une charmante histoire pour les enfants, née également chez Audio. Au sujet de ce qui est le deuxième recueil autobiographique de Akena Okoko, alias Kaenelo ou Kaenlo, je ne sais comment le prononcer, ne m'en voudra pas. Donc à ce sujet, au sujet des scènes noires, Pascal Leblanc dans la presse disait ceci le 1er avril de l'an dernier. Qu'il signe, il revient avec humour, poésie et sagesse sur les dizaines d'emplois qu'il a occupés avant d'être artiste à temps plein. Avant, il y a eu Sainte-Foy, un autre livre dans lequel il revenait sur sa jeunesse, Akena Okoko. J'aurai l'occasion de vous le présenter dans un autre balado. Mais celui-ci, Les Scènes Noires, c'est, d'ailleurs vous allez l'entendre le dire lui-même, un curriculum vitae afro-québécois qui rassemble une foule de souvenirs vécus sur le marché du travail. C'est réalisé entièrement par Akena Okoko, dont on écoute un extrait maintenant.
Les Scènes Noires. Curriculum vitae afro-québécois. Par Akena Okoko. Après beaucoup de pratiques, mon frère et moi avons raffiné la technique de faire semblant de dormir. Il faut contrôler le mouvement des pupilles et des paupières, relâcher votre respiration d'enfant excité. Surtout, il ne faut pas essayer de regarder sans ouvrir les yeux, mais plutôt attendre que vos oreilles signalent le calme immaculé du terrain de jeu qu'est la nuit. Une fois passées les douanes parentales du sommeil, le lampadaire de la rue derrière les stores de notre chambre nous fait le soir une lune plus brillante que la vraie lune. Le repos est un travail éprouvant qu'on préférerait parfois contourner. Un effort à déployer pour avoir l'énergie nécessaire afin de retourner courir au parc demain avec les amis, coucher pour affronter la noirceur seule et risquer d'y rencontrer un cauchemar. D'ailleurs, pourquoi les mauvais rêves ont-ils leur propre nom, alors que les bons rêves sont seulement des rêves?
Se lever avant le soleil.
Je suis assistant camelot pour le journal Le Soleil depuis 1989. Les livreurs du soleil dans l'est du quartier Sainte-Geneviève sont mes grands frères. Et un livreur du soleil, eh bien, ça doit se lever avant le soleil. Mon père fait le tour avec eux dans notre Oldsmobile familiale beige-brun. Et pour accélérer la distribution, Il rajoute à la banquette arrière mes deux jambes et mes deux bras, accrochés à mon cerveau encore endormi, coincés entre mes grands frères dans un calme de mission secrète. Nous sommes la seule famille d'origine africaine du secteur et c'est nous qui distribuons le soleil. Il n'y a ici aucun lançage de journal de loin à la façon des films de Hollywood. Nous déposons chaque journal comme si le contact du papier avec les dalles d'entrée pouvait réveiller quelqu'un. Comme si nous étions fiers de travailler. Il faut des enfants pour élever un village. Toute notre enfance, mon père a été en mission pour le soccer et le taekwondo. Il fut parmi les premiers élèves de Maître Tran Triokwan dans les locaux de l'Université Laval. Il se présentait pour demander à la ville de Sainte-Foy des bouts de terrain municipaux ou tracer des lignes de chaux et poser des buts. Un jour, alors qu'il proposait au conseil municipal d'implanter un terrain de soccer sur la partie champ d'un terrain de baseball, une responsable du jeu de balle informée durant la réunion s'est empressée de venir s'opposer au sport d'immigrants. On peut dire qu'elle avait quitté chez elle sur le champ, car elle s'est présentée en robe de chambre. Peut-être lui aurait-il fallu un petit cours d'histoire pour savoir que les deux sports ont des origines britanniques. Sont aussi arrivés des moments où les deux sports favoris de mon père se sont rencontrés, comme lorsqu'un jeune Donald Brashear a tenté de s'en prendre à l'arbitre durant un match de soccer à Val-Bélair. Ce qui s'avéra une mauvaise idée parce que l'arbitre était ceinture noire en taekwondo. Mes frères et moi avons toujours aussi pratiqué ces deux sports. Cet été, pour la première fois, je suis entraîneur de soccer. Et pour éviter aux enfants de subir le soleil de milieu de journée, les pratiques ont été placées le samedi matin. C'est facile de se lever pour aller jouer, mais ce l'est un peu moins pour aller faire la discipline à des débutants. Je devrais me botter le derrière pour arriver à l'heure.
L'école du dimanche.
Cet avant-midi, nous bricolons un veau d'or en carton, voué à être ensuite détruit par les enfants, selon le récit biblique du livre de l'Exode mettant en garde contre l'idolâtrie. Le deuxième commandement reçu de Dieu par Moïse stipule qu'il ne faut pas vénérer d'images taillées ou d'objets physiques.
Ce sont ses mots, ce sont ses musiques, c'est aussi sa voix. Akena Okoko, vous venez d'entendre un extrait de « Les scènes noires », poésie, recueil de poésie. Ça vient d'être enregistré et vous pouvez trouver ça gratuitement, puisque c'est payé avec vos taxes, comme je le dis toujours, sur le site de Radio-Canada. Un autre livre qu'on peut trouver sur le même site, je suis tellement contente qu'il soit là parce que je trouve que c'est un livre qui devrait se retrouver dans toutes nos bibliothèques. Cet ouvrage qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle », c'est une initiation à la pensée critique. Indispensable, on le sait, on trouve que nos enfants n'ont peut-être pas assez cet esprit critique-là. On constate beaucoup les faits, mais est-ce qu'on est capable d'argumenter? Ça, c'est plus difficile. Alors, comment maîtriser le langage, la logique, la rhétorique, les nombres, les probabilités, la statistique? C'est un petit peu de tout cela dont il est question sous la plume brillante de Normand Baillargeon, qui va nous présenter beaucoup mieux que ce que je le fais un extrait de son livre qui sera lu par Christian Vézina.
Introduction. Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. Point carré. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Francisco de Goya, extrait de La légende d'une gravure de caprice. La première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de votre cerveau. La deuxième est de vous extraire de tout ce système d'endoctrinement. Il vient alors un moment où ça devient un réflexe de lire la première page du Los Angeles Times en y recensant les mensonges et les distorsions. Un réflexe de replacer tout cela dans une sorte de cadre rationnel. Pour y arriver, vous devez encore reconnaître que l'État, les corporations, les médias et ainsi de suite vous considèrent comme un ennemi. Vous devez donc apprendre à vous défendre. Si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Noam Chomsky. Ce petit livre est né de la convergence, chez moi, de deux préoccupations. Elles ne me sont pas propres, loin de là, mais n'en sont pas moins vives pour autant. À défaut de pouvoir justifier chacune d'elles, ce qui demanderait un ouvrage tout entier et qui n'est de toute façon pas nécessaire ici, permettez-moi au moins de simplement les énoncer. La première de ces préoccupations pourrait être qualifiée d'épistémologique et recouvre deux séries d'inquiétudes. Je suis d'abord inquiet de la prévalence de toutes ces croyances qui circulent dans nos sociétés sous divers noms, comme paranormal, ésotérisme ou nouvel âge, et qui comprennent des croyances, des pratiques aussi diverses que la télékinésie, la transmission de pensées, les vies antérieures, les enlèvements par des extraterrestres, les pouvoirs des cristaux, les cures miracles, les programmes et appareils d'exercice aux effets immédiats obtenus sans effort, la communication avec les morts, diverses formes de mysticisme oriental appliqué, la chiropratique, l'homéopathie, l'astrologie, toutes sortes de médecines dites alternatives, le feng shui, les planches de Ouija, la possibilité de tordre des cuillères avec la seule pensée, le recours par les policiers au service de voyantes, la cartomancie, et j'en passe. Je suis encore inquiet, je devrais peut-être dire consterné, par ce qui me semble être un état réellement déplorable de la réflexion, du savoir et de la rationalité dans de larges pans de la vie académique et intellectuelle. Je le dirai aussi sobrement que possible. Certaines des choses qui se font et se disent dans certains secteurs de l'université actuelle, où fleurissent littéralement l'inculture et le charlatanisme, me sidèrent. Je ne suis pas le seul à le penser. Ma deuxième préoccupation est politique et concerne l'accès des citoyens des démocraties à une compréhension du monde dans lequel nous vivons, à une information riche, sérieuse et plurielle qui leur permette de comprendre ce monde et d'agir sur lui. Je le dis très franchement, comme beaucoup d'autres personnes, je m'inquiète de l'état de nos médias, de leur concentration, de leur convergence, de leur dérive marchande, du rôle propagandiste qu'ils sont amenés à jouer dans la dynamique sociale au moment où chacun de nous est littéralement bombardé d'informations et de discours qui cherche à obtenir son assentiment ou à le faire agir de telle ou telle manière.
Tellement brillant, Normand Baillargeon, qui parlait là à l'instant de nos médias et de la presse écrite notamment. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais si vous étiez un habitué du Devoir dans lequel Normand Baillargeon écrivait, sachez que c'est depuis fin 2024 qu'il n'est plus dans le Devoir. Il semblerait, tout ça est au conditionnel, qu'il y ait eu des pressions de la part du journal liées au contenu de ces chronique. Et que c'est la raison, c'est quand même surprenant de la part du Devoir, mais il semblerait que ce soit pour ça que Normand ait déserté les lieux. Ça fait déjà une émission ou deux que je vous parle des prix Audiolib 2026. C'est toujours intéressant d'avoir l'occasion d'entendre des livres audio qui, en principe, font partie des meilleurs, puisqu'ils sont nominés. Là, j'ai pour vous « C'était notre maison » de Marcus Cleaver. C'est lu par Aline de Ferrand, un bouquin dont on dit qu'il est original et terrifiant. C'est un premier roman effroyablement bon qui nous emmène dans une vieille maison isolée de l'Oregon où vivent Eve et sa compagne Charlie. Et un soir, Eve est seule, elle voit apparaître une famille sur le perron. Je les fais rentrer ou je les fais pas rentrer ? Elle décide de les faire rentrer et c'est sûr que l'ambiance va tout de suite être très, très, très différente. On dit ici que l'atmosphère bascule et que les phénomènes inexplicables s'enchaînent. Extrait de « C'était notre maison ».
Au début, Charlie n'avait eu aucun mal à y conduire les importuns. Cela l'amusait même. Pourtant, au bout d'un moment,
Elle s'était mise à inciter Ève à s'affirmer davantage. « Pour vaincre sa peur, il faut l'affronter volontairement », déclarait souvent Charlie. Ève le comprenait, elle faisait des efforts, mais...
« Je reviens tout de suite !»
Ève fit mine de refermer la porte quand le père dit « Désolé, mais vous permettez qu'on attende dans le vestibule ? Il fait plutôt froid ici. » Ève ouvrit la bouche, hésita à nouveau. « Je vous promets qu'on ne mettra pas le feu à la maison », plaisanta-t-il. Il faisait encore nuit quand Ève se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle avait fait un cauchemar dont elle ne pouvait se rappeler la teneur. Seul persistait un vague arrière-goût de terreur. Elle se redressa et regarda autour d'elle. Charlie et Shiloh dormaient encore. Sur le palier, la porte du bureau était entrouverte. En passant, Ève jeta un coup d'œil dans la pièce. La famille dormait, éparpillée sur des coussins et des matelas de mousse. Le clair de lune se répandait par le vitrail, teintant leur peau de vert ou de rouge pâle. Elle descendit l'escalier. Au lever du soleil, les visiteurs partiraient. Toute cette épreuve ne serait plus qu'une drôle d'histoire à raconter autour d'un feu de camp. La famille avec le père somnambule et la fille qui joue à cache-cache. Prête à remonter, Ève posa le verre, entra dans le salon et... La porte de la cave était entr'ouverte. Ce détail assez innocent déclencha un flot de questions. N'était-elle pas fermée jusque-là ? En colère, Ève alla ouvrir la porte en grand. Elle pencha la tête dans l'obscurité inhospitalière. Un coin de clair de lune s'étendait vers le bas. L'ombre floue d'un arbre se balançait sur la brique grossière. Elle héla. « Jenny ?» Sa voix dégringola. Aucune réaction. Elle était sur le point d'appeler à nouveau quand elle se rappela la mélodie servant de code, celle que Thomas avait utilisée. C'était un peu tiré par les cheveux, mais... Elle frappa sur le chambranle avec les articulations de son poing. Toc, 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 toc. Le silence se prolongea. Pas de réponse. Haussant les épaules, elle se détourna, et elle était déjà dans le vestibule quand, derrière elle, venant du bas de l'escalier de la cave, deux coups résonnèrent. Une main contre le bois sec. Jenny. Ève repartit vers la porte. Elle faillit tomber, mais se rattrapa à un montant et scruta les ténèbres. Jenny ? Plissant les yeux, elle força sa vision à s'ajuster, mais les ombres étaient tenaces. Elle était sur le point de s'en aller chercher une lampe torche quand, en bas des marches, une petite silhouette, immobile, de la taille d'un enfant, enveloppée par la nuit mouvante. Jenny. Jenny ne battait pas des paupières. 10 secondes s'étaient écoulées, peut-être 20, sans qu'elle ait cligné des yeux une seule fois. Soudain, comme en réaction à cette prise de conscience, la silhouette se redressa. Ce n'était pas un enfant, en fait, mais plutôt un adulte accroupi. Debout, le personnage mesurait plus d'1,80 m. Mince, dégingandé. D'un mouvement rapide, Ève se leva et claqua la porte.
Ambiance, hein. Extrait de « C'était notre maison » de Marcus Cleaver, lu par Alice de Ferrand. Le chant du prophète, maintenant également en nomination pour obtenir le prix du livre audio de chez Audiolib, de Paul Lynch, le chant du prophète, lu par Pierre-François Garrel. C'est drôle, ça commence de la même façon, sauf qu'on est à Dublin, un soir de pluie, il y a 9 chances sur 10. Il y a deux hommes qui frappent à la porte d'Eilish Stack. Ils sont membres d'une toute nouvelle police secrète, le GNSB. Il demande à s'entretenir avec le mari. Ce dernier n'est pas là. Mais depuis cette fois-là, eh bien, les enchaînements... Les événements s'enchaînent, voilà, voulais-je dire. Bref, encore un bouquin qui donne froid dans le dos. Le chant du prophète de Paul Lynch. Un extrait.
Il va bientôt rentrer, d'ici 1 heure environ. Vous voulez que j'essaie de le joindre ? Non, ce ne sera pas nécessaire, Mrs. Stack. Quand il sera de retour, pourrez-vous lui demander de nous contacter dans les meilleurs délais ? Je vous laisse ma carte de visite. Appelez-moi Eilish, je vous en prie. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? Non, madame, je regrette. C'est une affaire qui concerne exclusivement votre mari. Le plus âgé des deux adresse un grand sourire au petit, tandis qu'Eilish s'attarde sur les fronces autour de sa bouche. C'est un visage que la solennité du métier dérange. Il n'est pas taillé pour ça. Il n'y a pas de quoi se tracasser, Mrs. Stack. Pourquoi je me tracasserais, inspecteur ? En effet, madame, nous ne voulons pas abuser de votre temps, et en plus, comme on était de service toute la soirée, on est complètement trempé, ça va être dur de se sécher avec le chauffage de la voiture. Elle referme la porte de la véranda, la carte dans la main, et regarde les hommes s'éloigner. La berline freine au carrefour, et ses feux arrière brillent plus fort, comme des yeux luisants. La paix du soir revenue, elle embrasse de nouveau la rue du regard, ferme la deuxième porte et retrouve la chaleur de l'entrée. Et lorsqu'elle s'arrête pour examiner la carte de visite, elle s'aperçoit qu'elle retient son souffle depuis un moment. Il lui semble à présent que quelque chose a pénétré dans la maison. Elle aimerait poser Ben quelque part pour pouvoir réfléchir à son aise, pour comprendre comment cette chose qui accompagnait les deux hommes s'est introduite chez elle de son propre chef, indéfini mais perceptible. Et cette chose furtive la suit lorsqu'elle traverse le salon. Molly tient la télécommande au-dessus de la tête de son frère. Bailey agite ses mains dans le vide et supplie sa mère du regard. « Maman, dis-lui de remettre mon émission. » Eilish s'enferme dans la cuisine et installe le petit dans son siège à bascule, puis, alors qu'elle s'apprête à enlever de la table son ordinateur et son agenda, elle s'interrompt brusquement et ferme les yeux. Cette présence qui a pénétré dans la maison est toujours là. Elle regarde son téléphone, le prend dans sa main d'un geste hésitant, puis envoie un message à Larry et l'instant d'après, elle est de nouveau derrière la vitre, à regarder au dehors. Le jardin assombri a perdu de son attrait, car une part de cette obscurité est désormais à l'intérieur. Larry Stack arpente le salon, la carte du policier dans la main. Il l'étudie d'un air soucieux, avant de la poser sur la table basse, secoue la tête et se laisse retomber dans son fauteuil, tandis qu'Eilish le regarde en silence, empoignée sa barbe, le jaugeant d'un air familier. À partir d'un certain moment, la barbe d'un homme n'est plus une affirmation de l'âge adulte, mais un rempart dressé devant la jeunesse. Elle ne se souvient plus de lui rasé de près, ses pieds qui cherchent les chaussons à tâtons, son visage qui se détend. On pourrait penser qu'il est passé à autre chose, mais non. Son front s'est durci et la crispation se répand sur ses traits. Il se penche pour reprendre la carte. « C'est probablement sans importance, » dit-il. Elle fait sauter le petit sur ses genoux sans quitter son mari des yeux. « Comment ça, Larry, sans importance ?» Avec un soupir, il se frotte la bouche du revers de la main et se lève pour chercher quelque chose sur la table. « Où est-ce que tu as mis le journal ?»« Le GNSB, ce ne sont pas des flics ordinaires. Un inspecteur qui se déplace jusque chez nous, qu'est-ce qu'ils te veulent ?» Il montre le plafond du doigt. Ça t'ennuierait de baisser d'un ton ? Il passe dans la cuisine en serrant les dents, attrape un verre dans l'égouttoir et laisse couler le robinet. Ses yeux traversent son reflet dans la vitre pour se perdre dans l'obscurité du dehors. Les cerisiers sont vieux, ils ne tarderont pas à mourir, peut-être faudra-t-il les abattre au printemps.
Le narrateur s'appelle Pierre-François Garrel. Pour moi, c'est la quintessence de la narration. Il le lisait, on a entendu un extrait du Chant du prophète de Paul Lynch en nomination pour les prix Audiolibre. Ainsi d'ailleurs que Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. C'est lu par Lola Neymark. Elles sont 40 femmes enfermées dans une cave sous la surveillance d'impassibles gardiens qui les nourrissent. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Extrait.
Au moment où j'écris ces lignes, mon récit est achevé. Tout est en ordre autour de moi et j'ai accompli la dernière tâche que je m'étais donnée. Cela ne m'a demandé qu'un mois, qui a peut-être été le plus heureux de ma vie. Je ne comprends pas cela. Après tout, ce dont je me souvenais n'était que cette existence étrange qui ne m'a pas dispensé beaucoup de bonheur. Y a-t-il dans le travail de la mémoire une satisfaction qui se nourrit d'elle-même, Et ce dont on se souvient compte-t-il moins que l'activité de se souvenir? Voilà encore une question qui restera sans réponse. Il me semble que je ne suis faite que de cela. Au plus loin que je puisse retourner, je suis dans la cave. Est-ce bien cela que l'on nomme des souvenirs? Les quelques fois où les femmes ont consenti à me raconter des moments de leur histoire, ils contenaient des événements, des allées et venues, des hommes. Moi, je suis réduite à nommer souvenirs le sentiment d'exister dans un même lieu, avec les mêmes personnes, faisant les mêmes choses qui étaient manger, excréter et dormir. Pendant très longtemps, les journées se sont déroulées de façon exactement semblable. Puis, je me suis mise à penser et tout a changé. Avant, il ne se passait rien d'autre que cette répétition de gestes identiques et le temps me semblait immobile, même si je me rendais confusément compte que je grandissais et qu'il s'écoulait. Ma mémoire commence avec ma colère.
J'adore cette phrase. Ma mémoire commence avec ma colère. Elle est extraite de Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, lue par Lola Neymark, dont nous venons d'entendre un extrait. C'est un livre qui lui aussi donc, est en nomination parmi les 10 autres au Grand Prix du livre audio. D'Audiolib. Au sujet de ce livre, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Oui, je l'ai lu, celui-ci. Ces femmes-là vont finir par être libérées de leur geôle. Et elles vont entreprendre sur une terre absolument désertée, par toutes et par tous, une espèce de d'errance. Elles ne vont croiser aucun être humain. Elles ne vont trouver surtout aucune explication à ce qui a pu arriver. Ce qu'elles découvrent, c'est d'autres caves analogues, mais qui, elles, sont peuplées de cadavres. Alors, on fait référence à Kafka, on fait référence à Paul Auster là-dessus, on fait référence à plein de gens, à aussi Margaret Atwood, évidemment, quand on parle de femmes enfermées. Ne manquez pas ça, Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann. Dans quelques secondes, je reçois Faline Bobier. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles, c'est Clotilde qui anime ça pour vous. Salut! Voilou en compagnie de Faline Bobier qui vient de temps en temps, qui fait comme un détour via le téléphone, mais quand même pour venir nous présenter quelques titres, eux-mêmes présentés par Caleb. Vous savez, c'est cette agence qui vous permet de, enfin, qui réunit tous les livres audio qui vous sont disponibles à vous gratuitement, vous qui n'avez maintenant que seule possibilité de lire que le livre audio. Eh bien, ces livres-là sont en bibliothèque et Caleb vous aide à avoir accès à tous ces livres-là. Je pense que c'est pas trop mal résumé, Faline, bonjour.
Oui, très bien. Oui, exactement.
Bon, ben c'est parfait. Mais vous savez, je veux jamais prendre trop de temps pour que vous en ayez, vous, pour nous présenter les trois livres que vous avez choisis. Je vous laisse le soin de nous présenter le premier, Faline.
Ok, très bien. Alors, c'est « Comme des pas dans la neige ». C'est écrit par Louise Erdrich, qui est une auteure amérindienne qui a reçu plein de prix littéraires, etc. Et dans ce livre, en fin de compte, elle va réunir deux romans qu'elle a écrits auparavant dans un seul roman. Et il s'agit du même personnage principal, c'est Fleur Pilager. Et quand le roman commence, on est en 1912 et on est dans une réserve Ojibwe dans le Dakota du Nord. Et Fleur, c'est une sorte de, qu'est-ce qu'on dirait, c'est une sorte de medicine woman, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît toute la culture de plantes, etc., pour guérir. Mais ça parle aussi, bien sûr, de la manière dont les Autochtones ont été réduits par la société plus large, c'est-à-dire leur terre a été volée et ils sont maintenant restreints dans cette petite réserve. Et ils vont essayer même de prendre encore du terre des autochtones. Et elle va perdre sa maison. Oh. Et dans la deuxième partie, elle s'en va à la ville de Minneapolis. Et là, elle essaie de trouver, parce qu'elle a été violée par un homme blanc, elle va essayer de trouver cette personne pour se venger.
Je comprends.
Donc, c'est ça un peu l'histoire.
Et en plus, comble de malheur, hein, au début du livre, le froid, la famine, ça bat sur la réserve. Oui. Et aussi, la maladie, c'est l'extrait qu'on va entendre. Extrait de « Comme des pas dans la neige ».
Hiver 1912. Manitou Gezisons. Soleil du petit esprit. Nanapouche. Nous avions commencé à mourir avant la neige, et, comme la neige, nous avions continué à tomber les uns après les autres. Il était étonnant qu'il reste encore tant d'entre nous à mourir. Pour ceux qui avaient survécu à la maladie des taches venues du sud, au long combat à l'ouest du pays des Sioux, où nous avions signé le traité, puis au vent d'est qui nous avait précipités en exil dans une tempête de papiers officiels, ce qui descendait du nord en 1912 semblait inconcevable. En ce temps, nous pensions que le désastre avait sûrement perdu sa force, que la maladie avait sans doute emporté tous les Anishinabeg que la terre pouvait ensevelir. Or, la terre est infinie, de même que l'est la chance et de même que l'était autrefois notre peuple. Petite fille, tu es l'enfant de l'invisible, l'enfant de ceux qui ont disparu quand, accompagnant les premières âpres punitions du début de l'hiver, une nouvelle maladie s'est abattue. La consomption, ainsi que l'a appelé le jeune père Damien arrivé cette année-là pour remplacer le prêtre qui avait succombé au même fléau que ses ouailles. Cette maladie était différente de la variole et des fièvres, car sa progression était lente. L'issue, cependant, était tout aussi fatale.
Oui, ils ne l'ont pas eu facile, ils ne l'ont toujours pas facile quand on regarde. Je me passionne en ce moment justement pour l'histoire de l'Ouest américain et de tout ce qu'ont vécu les Indiens qu'on a pris pour de joyeux salopards, alors que finalement, qui étaient ceux qui ont été envahis, quoi.
Ce qui est bien en ce moment, c'est... C'est comme il y a comme un intérêt assez fort pour les gens qui ne sont pas autochtones pour lire cette littérature.
Absolument, absolument. Ouais, c'est pour ça que je vous remercie d'être arrivé avec ce livre-là. On va maintenant faire connaissance avec le mensonge de trop. Oh, suspense. Oui, c'est ça.
Oui, La Peña, elle s'appelle Shari La Peña.
Oui.
Donc, maintenant, je pense qu'elle est connue plus ou moins sur le plan international.
Okay.
C'est une autrice canadienne qui a été avocate avant de devenir professeure d'anglais.
Ouais.
Et puis enfin, elle s'est consacrée entièrement à l'écriture. Et son premier roman, Le couple d'à côté, est devenu best-seller en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu partout. Et comme vous dites, c'est vraiment, elle est maîtresse, je dirais, du thriller psychologique,
ça. Oui, effectivement. Oui, c'est le couple d'à côté. Je me disais, je connais ce nom-là. Mais oui, bien sûr, comme disait.
Oui, je pense qu'elle a écrit maintenant 5 ou 6 livres, et moi, je les ai tous lus, et je trouve que c'est vraiment, si vous aimez ça, c'est vraiment. Parce que les chapitres sont courts, les dialogues sont nombreux. Elle a vraiment un style fluide. Et en même temps, comme on dit en anglais, c'est un véritable page-turner.
Ah, c'est-à-dire
difficile d'arrêter de lire une fois que vous avez commencé.
C'est... Puis après, est-ce que si on le reprend un mois plus tard, est-ce qu'on va se souvenir? Ou parce que alors ça, c'est encore autre chose.
Oui.
Bon, ouais. Alors, on va en écouter un extrait. Là, si j'ai bien compris l'extrait, c'est un type qui est marié, mais qui a une maîtresse à l'extérieur. Il préfère définitivement sa maîtresse. En tout cas, c'est celle dont il est amoureux. Et là, elle lui apprend qu'elle le quitte. Et pour lui, la journée, donc, franchement, se déroule très mal. Et en plus, il rentre à la maison, sa fille est là, c'est pas prévu. Enfin, bref, à partir de là, j'imagine que ça va être une succession d'événements qui ne sont pas souhaitables pour William, qui est ce père de famille que l'on dit irréprochable. Extrait.
Peut-être est-elle déjà en train de regretter sa décision. Mais elle semblait déterminée. Et si elle avait déjà eu d'autres aventures ? Se demande soudain William. Il ne lui a jamais posé la question. Est toujours parti du principe qu'il était le seul. Il a beau l'aimer, il se rend compte qu'il ne la connaît pas si bien que ça au final. Alors qu'il glisse la clé dans la serrure de la porte menant du garage à la cuisine, il entend un bruit de l'autre côté et interrompt son geste. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Il découvre sa fille de 9 ans, Avery, supposée être à la chorale, le bras tendu pour attraper un paquet de biscuits sur le plan de travail. « Bon sang » enrage-t-il. « Ne peut-il donc jamais avoir la paix ?» Il n'a pas envie de devoir gérer sa fille à problème. « Pas maintenant. »« Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-il en s'efforçant en vain de ne pas laisser transparaître son agacement. Il a passé une journée horrible. Il vient de perdre la femme qu'il aime et avec, lui semble-t-il, sa vie entière.
J'habite ici ?
Répond Avery sur un ton sarcastique. Puis elle plonge la main dans le paquet de biscuits. Mais tu n'es pas censé être à la chorale ? Respire, s'ordonne-t-il, tâche de ne pas t'énerver. Elle ne fait pas exprès d'être horripilante, se rappelle-t-il. C'est sa façon d'être, c'est tout. Elle n'est pas câblée comme tout le monde.
Ouais, la journée va mal se dérouler, je pense, pour le monsieur, le soi-disant bon père de famille. Allez, on passe complètement à autre chose. Très prometteur aussi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'extrait que j'ai monté pour l'émission. La colline qui travaille, Philippe Manvi.
C'est comme ça? Oui. C'est une sorte de chronique d'une famille sur 4 générations. Donc... Manvi, c'est quelqu'un qui est né en France, mais je ne sais pas exactement quand, mais il s'est déplacé maintenant, il habite au Québec.
OK.
Mais l'histoire, je pense, c'est vrai. On pourrait appeler une sorte de biographie généalogique parce que c'est un roman, mais où il raconte des faits réels, il raconte le passé surtout de ses grands-parents maternels, Alice et René, qui habitait à Lyon. Donc, c'est aussi un peu un hommage à la ville de Lyon. Mm-hmm. Et c'est une famille ouvrière, des gens ordinaires, qui passent à travers la Première Guerre mondiale, la Dépression, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, c'était, je pense qu'il l'a écrit dans un sens parce qu'il était loin de sa famille, un peu pour...
se rapprocher. Par nostalgie.
C'est une sorte de mémoire, oui, pour se rappeler de son passé.
Mmh. On écoute un extrait de La colline qui travaille de Philippe Manvi, c'est lu par Laurent Secaud.
Nino Ferrer, c'est Gaston qui refuse de répondre au téléphone. La quête absurde du chien Mirza, l'énumération drôlatique des cornichons qui faisait rire mon fils aux larmes quand il était petit et qu'il dansait sur la table du salon en s'agitant dans tous les sens. Mais... c'est aussi le Sud. Cette chanson qui me bouleverse chaque fois.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie.
Les premiers couplets installent un décor de carte postale. Terrasse, linge qui sèche, enfant qui joue. On imagine des oliviers, des orangers sous un grand ciel bleu. Il suffit de quelques mots, de quelques accords, pour que vous soyez en vacances au bord de la mer, à profiter d'une journée délicieusement vide, le genre de journée où rien de grave, croyez-vous, ne peut vous arriver. Et lorsque vous êtes complètement détendu, bercé par Nino, par sa ritournelle, lorsque vous avez baissé la garde, la bêtise assassine des hommes fait son œuvre. La guerre éclate, tout explose, tout se déchire, la mélodie, la voix du chanteur et ce paysage nimbé de lumière auquel vous vous étiez attaché. Le sud disparu.
Et toujours en été.
Oh, j'ai pas pu résister parce que pour moi, c'est la nostalgie des années 75-80 par là, le Sud. Et écoutez, si tout le livre est comme ça, ça va me plaire beaucoup, 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 la colline qui travaille.
Oui, et je ne savais pas, mais apparemment, la raison pour laquelle on l'appelle la colline qui travaille, c'est parce qu'à Lyon, il y avait ces deux collines face à face.
Oui.
Il y avait un où il y avait beaucoup l'industrie du textile,
oui.
Donc les gens ouvriers. Et juste en face, il y avait la colline de Fourvière avec une basilique qui surplombe la ville. Donc
oui.
Pour ça, le titre du livre.
Alors, c'est vraiment la colline de ceux qui bossent, quoi.
Oui, c'est ça. Et quelqu'un, dans un article, on a fait une comparaison entre ce livre-là et Bonheur d'occasion.
Ah oui.
Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un peu, c'est, je pense, la même chose, c'est l'histoire d'une famille ouvrière,
ouais.
Avant et après la guerre, et des personnages.
Ouais.
Des gens ordinaires. Quoi.
Des gens ordinaires. Les
ouais,
uns
ouais.
à Lyon, en France, et les autres à Montréal, dans le quartier Saint-Henri. Voilà.
Ouais, ouais,
bah, écoutez, ça. Merci beaucoup, Faline. Trois belles propositions que vous nous avez faites là. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous n'avez plus vos yeux pour lire ou tout autre problème physique qui vous empêche d'avoir accès à des livres imprimés, vous pouvez passer par CAEB pour aller vous procurer gratuitement les livres audio via votre bibliothèque. Alors n'hésitez pas, c'est facile comme tout pour y arriver. C'est une autre manière d'avoir accès à ces livres-là. Voilà, merci beaucoup, Faline.
Merci, Clotilde. À la prochaine.
À la prochaine. Ce sera sûrement la dernière de la saison, peut-être, mais quelque part, au mois de mai, là. quand il fera beau pour vrai, j'espère. Allez,
oui.
Bonne journée, okay. Salut, au revoir.
Vous aussi, au revoir.
Elle s'appelle Anne Berest et elle a écrit Finistère. Elle avait vraiment un nom. Alors, ben vous, ça va peut-être rien vous dire, mais oui, il y a au bout du Finistère, qui est le coin le plus à l'ouest de France, hein, parce que la Bretagne est à l'ouest, comme elle le dit d'ailleurs dans le bouquin. De l'autre côté, ce sont les États-Unis. Et donc, au bout, il y a cette ville de Brest. Et elle s'appelle Berest, B-E-R-E-S-T, et elle est bretonne et elle vient d'écrire ce livre Finistère qui vient tout juste de sortir chez Audiolib, livre qui dure à peu près 9h30. Apparemment, Madame Berest, c'est pas la première fois qu'elle écrit avec comme thème, comme sujet, l'exploration de ces transmissions entre guillemets invisibles et de toutes les interrogations qu'on peut avoir autour de la transgénéalogie. De quoi hérite-t-on, pour être plus clair ? Elle écrit « À chaque vacances, nous quittions notre banlieue pour la Bretagne, le pays de mon père, celui où il était né, ainsi que son père et le père de son père avant lui. Le voyage débutait gare Montparnasse, ben oui. » C'est de cette gare qu'on s'en va vers l'ouest. Sous les fresques murales de Vasarely, leur forme hexagonale répétitive, leur motif cinétique dont les couleurs saturées s'assombrissaient au fil du temps et dont l'instabilité visuelle voulue par l'artiste se transformait année après année en incertitude. C'est vrai que toutes les gares à Paris, il y en a une qui se démarque par son horloge, il y en a une autre qui se démarque par ses Vasarely. En tout cas, elles ont toutes leur charme. S'il y en a une qui se démarque de rien, bah, c'est parce qu'elle se démarque par ses nombreuses boutiques. dans le sous-sol. Voilà, alors elle nous avait déjà écrit, Anne Berest, la carte postale et Gabriel. Et là, c'est un nouveau chapitre de son œuvre romanesque, écrit-on ici, consacré à l'exploration de son arbre généalogique, la branche bretonne, finistérienne, qui remonte à son grand-père. Ici, la petite et la grande histoire ne cessent de s'entremêler. Depuis la création des premières coopératives paysannes jusqu'à mai 68, en passant par l'occupation allemande dans un village qui s'appelle Léon, j'ai pas dit Lyon, j'ai bien dit Léon, et la destruction, oui, parce que Brest a beaucoup souffert pendant la guerre, donc la presque quasi-destruction de la ville de Brest. On écoute un extrait de Finistère.
À Morlaix, le train arrivait en maître au-dessus de la ville. Depuis le viaduc, je guettais l'apparition soudaine d'une mer de toits en ardoise bleu nuit, étagée, semblable à une étendue de vagues pétrifiées. Il ne restait plus qu'une heure de voyage jusqu'à Brest, le bout du bout, la fin de la terre. Impossible d'aller plus loin, après, c'était l'Amérique. Après le terminus, il fallait traîner nos valises bibliothèques que la fatigue du voyage rendait plus lourdes encore. Nous nous rendions à pied chez mes grands-parents, qui habitaient à quelques centaines de mètres seulement de la gare ferroviaire. Je les appelais « papy » et « mamie ». Et il ne me venait pas naturellement à l'esprit qu'ils avaient des prénoms. À mes yeux, ils n'avaient qu'un rôle, celui d'être mes grands-parents de Bretagne, des êtres à la fois réels et lointains, vis-à-vis desquels j'éprouvais un respect mêlé d'appréhension. Le père de mon père était un homme charismatique, qui exerçait des fonctions. Il avait été maire de Brest, avant ma naissance, élu sous le slogan « Bérest pour Brest ». Aptonyme parfait, comme celui du footballeur Jérémy Pied ou de l'humoriste Thierry Leluron. Il n'avait pas fait carrière en politique, mais en tant que professeur de lettres, de latin et de grec. Ce fut son atout lorsqu'il se présenta à la mairie. Et plus tard, il devint connu comme le maire professeur de lettres. Je ne me sentais jamais naturelle avec mon grand-père. En sa présence, je ne pouvais pas m'empêcher de jouer la petite fille modèle, attitude que je reproduirai plus tard en d'autres situations. Je réordonnais ma manière d'être, souriant niaisement, m'inclinant pour plaire. Je ne comprenais pas que cette attitude faisait de moi une enfant aux mimiques précieuses, sans naturel et sans charme. Eugène Berest est mort en 1994. Cet été-là, celui de mes 15 ans, j'avais déniché les vieux pattes d'éléphant de ma mère au fond de ses tiroirs. Je ne m'habillais qu'avec des fripes achetées dans les vides-greniers, à la fête des vendanges de Bagneux, des vêtements anciens que je revêtais comme des oripeaux qui me semblaient imprégnés de la mémoire de ceux qui les avaient portés dans des époques plus lourdes, plus vraies. J'avais ce goût du passé, et cette impression d'être née trop tard, dans un temps qui n'était pas le mien. Il me semblait que tout ce qui comptait, tout ce qui valait la peine d'être vécu, avait déjà eu lieu, avant, sans moi. J'avais la nostalgie d'amitié que je n'avais pas connue, dont je cherchais la possibilité dans les livres. J'écumais les ciné-clubs pour voir des films anciens. Quand je sortais du cinéma, je ressentais toujours un peu de mélancolie, trouvant ma vie banale et fade. Dans les jours qui suivirent la mort d'Eugène, ma grand-mère Odile confia des cahiers à ma mère, sa belle-fille, Lélia. 4 cahiers d'écolier, de la marque Oxford, dans lesquels mon grand-père avait écrit quelques-uns de ses souvenirs avant de mourir. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je vis ces cahiers, j'eus une forme de mémoire de l'avenir, comme il arrive parfois dans l'enfance et l'adolescence. Je savais qu'il se retrouverait un jour en ma possession. C'est ce qui est arrivé 30 ans plus tard. Je venais de publier un roman qui retraçait l'histoire de ma famille maternelle, les Rabinovitch, juifs de Russie et de Pologne. L'histoire vraie d'une carte postale, anonyme, envoyée à ma mère, Lélia. C'est elle qui, matrice inépuisable, toujours la clope aux lèvres, m'a ressorti d'un tiroir les 4 cahiers Oxford aux motifs écossais de mon grand-père. Je les ai immédiatement reconnus.
« Tu sais, je crois que ton père serait content que tu y jettes un coup d'œil », a dit Lélia.
Mon père n'étant pas un homme bavard, c'était souvent ma mère qui faisait l'interprète auprès de nous, ses filles. Ce jour-là, j'ai reçu un mail de sa part. Il était si rare qu'il le fasse. Il venait de terminer le livre que j'avais écrit sur ma famille maternelle et concluait ses remarques ainsi. Quand ta maman m'a dit, il y a longtemps, qu'elle avait ressenti l'appel à retracer l'histoire de sa famille, comme tu l'as ressenti, je lui ai dit que c'était très bien, mais qu'il y avait aussi la vie, vous trois, ce que nous avions encore à faire.
Ah, j'aime ça, moi. J'aime bien les gens qui nous amènent dans leur univers, surtout quand ce n'est pas le nôtre, comme ça, que ce soit dans n'importe quel pays. Cette fois-ci, c'était Anne Berest, ça se prononce Berest, je pense, qui nous emmenait dans le Finistère. C'est lu par Camille Lamache et ça fait partie des nouveautés que je voulais vous présenter. Les cahiers Oxford, j'avais oublié ça complètement. C'est vrai que c'était des cahiers avec des... Comment on appelle ça, avec comme des cartons, c'est comme ça, tu sais, là, comme des, voyons, comment on appelle ça, les tissus écossais, là, tu sais, qui portent les, oui, c'est ça, hein, alors, il y en avait de toutes les couleurs, et c'était très chic d'avoir ces cahiers-là, ça faisait pas le cahier du pauvre, mais ça n'était qu'un cahier, quoi. Oh, le souvenir, la nostalgie, bon. Allez, retour chez nous avec Alexis Trouve sa voix. Oh, que c'est charmant. Vous savez que j'aime bien faire des petits clins d'œil à nos plus jeunes aussi dans cette émission des livres plein les oreilles, parce que Dieu sait si on aime leur raconter des histoires, mais quand on n'est plus capable de leur raconter des histoires, quand on n'a pas envie, on peut peut-être leur faire entendre des livres audio. Alors pourquoi pas celui-ci qui dure quoi? À peu près une quinzaine de minutes. C'est parfait ça pour s'endormir. Vous trouvez ça sur le site de Radio-Canada Audio. Ça s'appelle Alexis Trouve sa voix. Alexis qui veut à tout prix chanter dans une chorale, la chorale de son école, c'est son souhait le plus cher, mais même les chats n'apprécient pas quand elle chante. C'est pour vous dire, heureusement, quand la musique nous habite, elle fait son chemin, elle va finir par trouver sa voix, mais peut-être pas en chantant. En attendant, nous, on va écouter un extrait de « Alexis trouve sa voix », écrit par Anne Renaud, c'est lu par Océane Lantaigne.
Alexis Boisfleury avait un souhait. Bon, peut-être pas juste un. Elle souhaitait avoir une salamandre nommée Gertrude. Elle souhaitait aussi pouvoir transformer les brocolis en jujubes. Mais plus que tout, Alexis souhaitait avoir une voix. Pas juste une voix pour chanter dans le bain, ce qu'Alexis faisait déjà souvent. Et pas juste une voix pour chanter sur sa musique préférée. Alexis rêvait d'avoir une voix qui ferait applaudir les gens et crier « Bravo! Encore! Hourra! » Une voix pour chanter dans la chorale de l'école. C'était tout un souhait pour une voix comme celle d'Alexis. Parce que lorsqu'Alexis Boisfleury chantait, sa voix ne ressemblait pas au gazouillis des rossignols. Sa voix ressemblait à quelque chose de bien différent.
Est-ce que j'entends des canards cancaner?
Quelqu'un a-t-il marché sur la queue du chat?
Aïe, mes oreilles!
C'est une porte qui grince ou quoi?
Lorsqu'Alexis a auditionné pour la chorale de l'école, M. Gustave a d'abord regardé ses pieds, puis il s'est tordu les mains. Finalement, il s'est éclairci la gorge et lui a dit
« Alexis! » Ta voix est un peu comme... un gâteau non cuit. Un jardin non cultivé. Elle n'est pas tout à fait prête. Peut-être que tu pourrais auditionner à nouveau l'an prochain.
Alexis a trouvé que c'était une chose bien étrange à dire. Qu'est-ce que sa voix avait à voir avec la pâtisserie ou le jardinage? Monsieur Gustave lui a alors suggéré de se joindre à l'orchestre de l'école pour accompagner la chorale. Mais les instruments préférés d'Alexis étaient la cornemuse, le didgeridoo et l'accordéon. La salle de musique n'avait aucun de ces instruments.
Ouf!
Avait alors dit Monsieur Gustave, ce qu'Alexis avait aussi trouvé une chose étrange à dire. Alors, devinez ce qu'a fait Alexis. D'abord, elle a reniflé un peu. Ensuite, elle a boudé un peu. Puis, elle s'est remise à chanter.
Frère Jacques, frère Jacques, dormez.
Et quand elle en a eu assez de chanter toutes les chansons qu'elle connaissait, Alexis décida qu'elle s'en inventerait de nouvelles.
Alors, vous voulez savoir la fin?
Je ne sais pas si... Est-ce que je devrais vous le dire?
Non, je ne devrais pas vous le dire. Ah, ça me démange. Non, bon, bah alors, allez vous procurer ce petit livre-là. Et puis voilà, vos enfants seront ravis. La voix d'Alexis commençait déjà. Alexis trouve sa voix. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'était des livres pleins les oreilles. Le balado, le seul de la francophonie à ne parler que de livres audio. Je suis aidée par Mathieu Tessier. Je m'appelle Clotilde Sey. Je le réalise ce balado-là. Puis je l'anime. Puis ça me fait bien plaisir. Puis je m'en vais en préparer un autre pour la semaine prochaine. Allez hop là!